voilà de retour pour la seconde partie de cette émission où nous allons entamer tout de suite avec le gras du sujet, c'est-à-dire Oltré. Donc,
Ouais.
Alors, on mène au camp de boxe.
Putain, le hurlement.
Ça va être dur à baisser ça lors du montage.
Non, t'inquiète. C'est le point. Allez, vas-y Loïc, nous t'écoutons.
Donc, Oltré, c'est un jeu du Grumpf, paru chez John Doe cet été. C'est du médiéval fantastique et moi j'ai été carrément emballé. Voilà, il y en a d'autres acceptables.
C'était bien.
Donc, Oltré, ça se veut un old school, donc, c'est-à-dire retrouver un peu l'ambiance Donjons et Dragons des années 80, mais avec les. Des règles et des méthodes de jeu qui sont plus modernes.
Ce qu'on appelle le old school renaissance.
Voilà.
Oh, n'importe quoi.
Mais si, l'OSR.
Oh la vache, quoi.
Bah quoi.
Old school renaissance, c'est quand tu tabasses des gobelins avec une perruque poudrée, c'est ça.
Mais non, mais...
Il n'y a pas du new school, moi, j'ajoute un truc. Enfin, bref.
Et donc, pour repartir sur Oltré, Oltré, ça se présente en... deux livres et un tas de cartes. Alors, il y a en gros le manuel du patrouilleur et puis un écran, effectivement.
Et puis aussi
des petits.
Plein de morceaux.
Une carte vierge et une carte qui servira pour un scénario de base qui est proposé dans le bouquin de base.
Ça fait un peu Back in Black quand même.
Ouais. L'écran est très noir parce que c'est en vernis sélectif pour visualiser les images côté des joueurs. Par contre, côté du MJ, il y a énormément de tables qui sont très bien faites, j'ai trouvé. Donc, déjà, le manuel du patrouilleur. Alors, le manuel du patrouilleur, en gros, c'est le livret pour les joueurs et il y a tout dedans. C'est-à-dire, à la fois ce qu'on va retrouver dans le manuel du joueur D&D, à savoir les listes de sorts et compagnie, mais aussi les règles pour jouer, tout simplement. Et puis ainsi que la création de personnages. Donc tout ça, c'est très, très sympathique. C'est-à-dire qu'un joueur à qui on met dans la main le manuel du patrouilleur et sa fiche de perso, qui contient aussi énormément de rappels pour les créations et autres, il est capable de se débrouiller tout seul. Par contre, il n'y a qu'un seul manuel du patrouilleur, et si on a plusieurs joueurs, il faut un peu le partager, mais voilà.
Donc le petit livret en question, il fait 36 pages, et le Exactement. Bouquin en fait 144.
Voilà, le bouquin, parlons-en. Alors, le bouquin va présenter très succinctement un univers. Un univers qui pose l'ambiance, et à savoir, on joue des patrouilleurs qui sont une institution... qui date d'un empire disparu depuis quelques siècles, après une longue décadence. Et l'institution des patrouilleurs, c'est, on va dire, pas des paladins, mais qui ont quand même notre bon. à savoir que, vraiment, on est incité à jouer des gens qui sont là pour aider, pour porter la civilisation.
Parce que dans le contexte, il s'agit des restes d'un empire qui fut autrefois florissant et les patrouilleurs qui font un peu partie des derniers qui sont capables de voyager de ville en ville pour sécuriser les lieux qu'on va visiter.
Exactement, parce que l'empire s'est complètement disloqué tout simplement par des pertes de communication entre ces différents... comme si on fait une analogie, l'abandon de la Grande-Bretagne par l'empire romain décadent parce qu'il n'avait plus de sous pour maintenir ses troupes là-bas.
Ah, c'est vrai que c'est pas con.
Mais c'est carrément ça. Et donc, quand je dis que c'était une présentation assez succincte, c'est que ça doit couvrir une dizaine de pages à tout casser sur les 150. Mais à côté de ça, au fil du reste du livre qui couvre toutes les règles, on va avoir plein de petits éléments un peu d'univers qui vont... amener à enrichir ça. Mais pourquoi ça se veut succinct aussi? Parce que le but du jeu, c'est aussi que le MJ ainsi que les joueurs créent l'univers et l'enrichissent avec ce qu'eux ont envie d'y apporter. Et toutes les mécaniques sont là pour ça. Alors personnellement, en tant que MJ, moi je suis très... je pars genre avec une phrase de pitch, je lance mes joueurs et puis je rebondis énormément sur ce qu'ils font. Et jusque-là, j'avais jamais trouvé de jeu de rôle qui fournissait les outils qui m'aideraient à agir comme ça. Et Oltre, par contre, là, c'est carrément... pour moi, c'est le jeu idéal parce qu'il me fournit tous les outils qui me permettent d'avoir une fluidité en termes d'improvisation qui...
Alors, quels sont les outils en question ?
Alors, les outils en question. Bon, déjà, en termes de préparation de l'univers, il y a toute une... Il y a, en fait, tout plein d'outils pour créer un univers, pour créer une zone géographique avec ses différents éléments géologiques et autres, son histoire, ses différentes communautés, ses factions, et vraiment créer un monde riche. Donc ça, il y a tout plein de conseils, de tables où on peut soit aller chercher les éléments qu'on veut, soit simplement les tirer au dé et obtenir quelque chose qui soit cohérent et un peu dans l'ambiance vraiment Donjons et Dragons classique. Donc voilà. Et il y a aussi tout plein d'outils qui servent en cours de partie pour pouvoir rebondir sur ce que les joueurs... vont vouloir amener ou pas. Par exemple, s'il y a un dragon qui arrive à un moment, ben, ok, un dragon, vous me laissez 5 minutes, je tire 5-6 dés dans des tables différentes et je sais à quoi il ressemble mon dragon, je sais quelles sont ses motivations, je sais ce qu'il va chercher à faire et ben, je vais pouvoir broder là-dessus sans aucun souci. Moi, par exemple, sur la première partie que j'ai pu tester, on a justement sorti un dragon comme ça, et franchement, vu que c'était la première rencontre, j'avais un dragon, qu'est-ce qu'ils vont en faire? au fur et à mesure que je lançais les dés un peu pour former le dragon, je voyais comment il allait interagir avec les personnages. Et ça, c'est assez fabuleux comme outil qui sont proposés. Oui, enfin, globalement, il y a après, bon, il y a des outils sur les dragons, sur les monstres, sur les ruines, pour créer des ruines que les joueurs vont explorer au fur et à mesure. Mais vraiment, c'est une boîte à outils pour le MJ. On parlait tout à l'heure de Vorheim qui proposait un peu des tables avec des rumeurs et autres. J'ai feuilleté pendant la pause de Vorheim. C'est vrai que, par exemple, les rumeurs qu'ils proposent sont construites complètement. C'est-à-dire, c'est tout de suite la rumeur complète. Le grand mage, et on a tout ce que le grand mage il veut faire. Ici, on va avoir 5-6 tables différentes, et on va tirer donc 5 fois, 6 fois le dé, et on va avoir 5 éléments qui vont se juxtaposer et qui vont donner une trame. Et qui va, ben après cette trame, bon, il y a un petit travail de réflexion et d'improvisation dessus, mais très vite on va trouver les idées pour faire avancer le schmilblick. Et avec rien du tout, même sans préparatif, il y a moyen de faire une séance de jeu de 4 heures qui va amener énormément d'histoires sans que le BEMJ ait limite besoin de préparer avant.
Tu pourrais nous parler un petit peu aussi du côté carte et tout ça,
oui.
Parce que c'est...
Alors, en jeu, je disais qu'il y avait plein d'outils pour les MJ, mais il y a aussi des outils pour les joueurs, parce que le but dans Oltre, c'est aussi que les joueurs puissent amener un peu leurs envies dans l'univers. Donc pour ça, il y a 3 jeux de cartes qui sont associés. Donc on va avoir...
Qui sont fournis avec le jeu.
Qui sont fournis avec le jeu, tout à fait. On va avoir dans un premier temps les cartes de patrouille. Alors, une carte de patrouille, j'en ouvre une... On tire une au hasard. Une carte de patrouille, ça va être, par exemple, là j'ai sous les yeux une rencontre avec en dessous d'indiquer peuple, animal, créature et quelques exemples, donc des voyageurs venus de loin, des gens intéressants, une créature unique, qui sont en fait juste des pistes d'inspiration. Et donc le joueur, il va piocher cette carte de patrouille quand le groupe va vouloir visiter... on y reviendra plus tard, un hexagone.
Car les personnages se déplacent d'hexagone en hexagone
sur
une carte à l'ancienne, en fait.
Exactement. Et le joueur va être... donc, en plus de tirer la carte, on tire aussi 2D6, qui vont nous... 2D8, pardon. Tout marche au D8. Qui vont nous indiquer si c'est une carte plutôt positive pour les joueurs ou plutôt très négative. Plus le score est gros... plus c'est négatif. Et donc le joueur va être invité à proposer au MJ un peu ce que c'est. Donc là, par exemple, il lit ça, une rencontre, et puis il choisit une créature unique qu'il décrit. Enfin, le joueur peut décrire à peu près n'importe quoi. Et en fait, à un moment, soit le joueur il a plus d'inspiration, soit le MJ il trouve que il a amené assez de choses, le joueur, et le MJ va reprendre la main en disant que faites-vous ? Voilà, la question classique en jeu de rôle. Et tout va continuer comme ça. Donc ça, c'est un outil très puissant parce que les joueurs peuvent amener les éléments qu'ils attendent en fait au final. Mais après, bon, ça reste quand même l'OMJ qui va prendre la main sur cet élément et mener comme il l'entend.
Oui, notamment parce que l'OMJ, avec toutes ses tables, a préparé un cadre de campagne dans lequel, au sein duquel les joueurs vont évoluer. Et leur création, notamment tirée avec les cartes de patrouille, il va devoir essayer de les rapprocher, hein, de les intégrer, les raccorder en fait à ce que lui-même a créé.
Exactement, mais après on peut simplement rajouter, enfin en tant que MJ, moi ce que j'ai pu faire c'est simplement rajouter le dragon, je ne l'avais pas du tout prévu par exemple, maintenant il est là, il a une relation avec les patrouilleurs, donc... Non, pas comme ça.
Le regard de Yannick.
En plus, il a deux têtes, hein, il est deux patrouilleurs.
Ouais, j'aime bien. Bah, le dragon, il est là maintenant. Bon, ouais.
Alors, on s'en servir. Hein, c'est le dragon à deux
c'est
têtes.
Le dragon, bon, quoi.
Bon, voilà. Mais cet élément, il est apparu et je l'ai intégré à ce que j'avais prévu. J'ai effacé des choses que j'avais prévues parce que, au final, ça me semblait moins intéressant que ce que les joueurs m'ont proposé. Donc il y a vraiment à ce niveau-là un côté participatif.
Ouais, c'est vrai qu'on peut pas encore se rendre compte du tout avec au fur et à mesure de l'évolution justement de plusieurs scénarios et tout, est-ce qu'on arrive encore à garder un cadre global, celui qu'on va avoir créé soi-même, à y raccrocher des choses
Dans les outils de création de la région du settings global qu'on se veut, et avec les conseils donnés dans le livre de base, il y a aussi ne prévoyez pas trop, laissez de la place justement pour que les joueurs puissent amener leur morceau.
Moi j'ai une question, est-ce que ça marche si les joueurs sont des bouts de bois et qui décident de juste rien faire?
Alors, juste rien faire, le joueur, pas le personnage.
Non, c'est-à-dire que le joueur, au moment de mettre de jeu, lui dit, tiens, je sais pas, décris-moi tel truc, ou tire-moi une carte, machin, et le joueur, il fait, non, c'est toi le MJ. Okay, démerde-toi. Est-ce que ça marche quand même?
Les joueurs sont des endives.
Je voyais qu'il y avait
beaucoup de joueurs.
Il y a une section là-dessus. Je parcourais le bouquin et t'as un petit paragraphe qui s'appelle Les timides.
Exactement.
Voilà, et qui dit l'une des plus grandes difficultés qu'on peut rencontrer, c'est la timidité ou la réserve de certains joueurs. Votre travail de meneur de jeu est de bien expliquer que toutes les idées sont bonnes, toutes les références sont utiles. Donc, je crois que la réponse à ta question, là, si je lis le paragraphe, c'est non.
Après.
Alors, sur le site, il y aura une aide de jeu pour Roll Tray. Donc, c'est la recette du ponge de David.
Mais voilà. Bah, après, c'est le genre de jeu, effectivement.
Après, on propose le jeu aussi par rapport à ce qu'on a envie de jouer.
Ma question derrière, c'est est-ce que le jeu est jouable dans une optique, je ne vais pas dire normale, mais classique?
Sans
le côté narrativiste.
Moi je pense pas. Sans l'avoir lu, je pense pas.
Ouais, mais ça c'est le ponge qui te donne des idées sur
non,
le
mais,
jeu.
Bah, dans ce cas-là, limite le MJ peut tirer ses cartes et utiliser ses inspirations ou carrément pas tirer la carte et faire son inspiration à lui. Mais dans ce cas-là, enfin je veux dire
autant jouer
à Roll Tray et jouer à d'autres jeux qui prévoient pas tout ce genre d'outils qui sont pratiques à ce niveau-là.
Non, mais tu peux garder ça comme des possibilités, pas forcément des obligations.
Ah oui, non, mais tout à fait, de toute façon, ce ne sont pas des obligations, c'est dit plus loin dans le bouquin aussi, que si un joueur ne se sent pas de répondre, il peut très bien passer son tour.
Il peut passer la carte à son voisin.
Voilà, et qui lui,
idées,
peut-être, aura des idées. Et après, en tant que MJ, on peut aussi chercher à amener, proposer des suggestions aux joueurs pour essayer d'entamer une discussion et décoincer un peu le truc. Par exemple, lors d'une début de session, l'un des conseils qui est donné, c'est de faire un tour de table et que chacun propose une rumeur Donc on ne sait pas si c'est du vrai ou du faux, sur la région que les patrouilleurs vont nouvellement explorer. Nous, on a sur ce point-là, ça a été... bon, voilà, on ne sait pas quoi dire. Et du coup, moi, j'ai proposé, historiquement, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? Donc déjà, en donnant un élément... Ça a décoincé. Bah, historiquement, l'île, elle a été abandonnée au début de la guerre, donc on n'a plus de nouvelles depuis très très longtemps. Voilà, ça fait un élément. On n'a pas plus d'infos, mais on n'a pas besoin de plus d'infos, parce que c'est juste des pistes, en fait. C'est juste des pistes de réflexion qui vont servir ou pas pour le futur de la campagne. Donc, dans les autres cartes qui sont disponibles, il y a trois paquets différents. Il y a encore une question sur
non, c'est pas une question, c'est justement pour compléter ce que tu disais par rapport à la demande de Yannick. C'est clairement précisé, en fait, que Ultray est un jeu participatif dans un monde ouvert émergent. Je pense que si tu proposes ça à une endive, normalement, il y a déjà quelques...
Il y a déjà participatif.
Je parle aux endives régulièrement.
C'est quelque chose qui est vraiment détaillé dans le début.
Donc, ce n'est pas un jeu qui parle à l'oreille des endives.
Ni à l'oreille de Yannick.
Non, surtout ça veut dire que c'est un ça fait partie du
concept. Non, mais attends. Je veux pas dire que non. Je veux pas dire que Yannick est une endive, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, surtout que je dois partir dans 5 minutes. Je vois bien que c'est pas c'est déjà des remarques qu'on avait eues, qu'on avait parlé d'autres jeux un peu du même style.
De John Wall. Alors donc l'idée. Non, moi la question que je pose, donc ça fait partie du contrat social, c'est-à-dire que quand tu proposes ça à tes joueurs, tu leur dis écoutez les mecs.
Bah oui.
On va faire un jeu de rôle. Si vous ne m'apportez pas d'idées,
ça va être plus dur pour moi.
On va juste se casser les couilles tous ensemble.
C'était la critique de Croc sur les jeux nativistes il n'y a pas si longtemps.
Okay.
Dans le podcast. Là.
Dont on ne peut pas dire le nom.
Jules de chez Sens en face.
C'est ça, les concurrents.
Romaric de la cellule en face.
Oui.
Non, c'était pas celle-là. C'était,
non, c'était dans Basincast,
je crois.
Basincast.
Ah, sur Basincast.
Lié à Proxy Jeu.
Oui, d'accord, avec Croc.
Le contrat social, c'est de dire je te donne, toi, joueur, une certaine part de liberté, de proposition et compagnie, etc. Donc si tous les joueurs à la table n'ont aucune idée, n'ont rien à proposer.
Non, mais justement, c'est pour ça que je posais la question. Non, c'est pour ça que je posais la question. Il y a des jeux qui t'apportent. Là, encore une fois, moi, il y a une différence entre l'obligation et la possibilité. Le fait qu'il soit possible pour un joueur dans la bulle de gameplay, c'est-à-dire dans la scène en question, de proposer ses propres idées pour arriver à la résolution de cette scène, moi, ça me paraît super bien. Je le fais, j'essaie de le proposer régulièrement, j'adore ça. Et quand les joueurs n'apportent pas leurs idées, à ce moment-là, toi, tu prends le relais, c'est pas grave parce que la scène, elle est jouée de toute manière. Et puis l'obligation qui dit si. Vous apportez pas, et c'est exactement ce qui s'est passé avec la partie de Dungeon World que j'ai fait il y a quelques jours avec Eric, justement. C'était si les joueurs n'apportent rien, l'histoire n'avance pas du tout. Et ça, c'est chiant en vrai.
Les joueurs n'apportent rien, il y a quand même suffisamment d'éléments, d'outils, d'aide à la création, même à la volée. Comme je disais sur laissez-moi 5 minutes, je tire un dragon.
Oh, c'est dégueulasse. Faut pas dire ça.
Évidemment.
5 minutes douche comprise pour un dragon.
Donc laissez-moi 5 minutes, je veux créer un PNJ comme ça et avec rien qu'avec des outils comme ça, il y a largement. Et puis si on prend sur un MJ plus classique qui aura préparé un peu son scénario à l'avance avec des éléments, des PNJ, des chroniques, ruines. Des ruines et tout, il y a quand même moyen de faire quelque chose.
Les factions, parce que on n'a pas trop détaillé les factions, mais chaque faction a des objectifs, se trouve à un certain stade d'ascension ou au contraire de destruction de sa propre faction, etc.
Voilà.
Tu as les éléments pour vraiment créer un décor vivant autour des PJ. Donc si ils veulent juste avancer et voir le film qui tourne autour d'eux, ça peut se faire aussi.
Ça peut se faire. Simplement nourri par le MJ.
Voilà.
Mais
ça
serait dommage. Disons qu'on n'utilise pas 100% des possibilités du jeu.
Ouais, c'est juste pas le bon outil, quoi.
Voilà,
ce serait pas le bon outil, d'accord.
Ce serait pas le bon jeu, en fait, dans ce cas-là.
Ça pourrait largement dépanner, notamment pour différentes approches, hein, parce que simplement le fait que la carte à hexagone soit remplie d'hexagones, le but du jeu pour les patrouilleurs, c'est de sécuriser les hexagones. Donc c'est d'avoir tiré 6 cartes sur chaque hexagone. Et donc il y a toute série de choses qu'on peut faire. Est-ce que dans un hexagone, je vais essayer de me positionner en hauteur pour voir ce qui se passe sur l'hexagone d'à côté, avoir une idée, etc. Il y a quand même pas mal de petites mécaniques un petit peu ludiques, etc. qui peuvent compléter si on tombe sur des gens qui vont être plutôt peu orientés vers le « Oh, et là on dirait qu'il y a une caravane de marchands nains !»
D'accord. Donc il y a quand même des éléments de gameplay, enfin des éléments techniques
qui font que ça peut quand même être kiffant, même pour des joueurs qui sont, même pour des joueurs, pardon, qui sont pas dans le côté justement narrativiste, descriptif, etc. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut tout à fait dire, bah tiens, je vais regarder ce qu'il y a sur l'hexagone d'un côté en montant
le
sur
jeu,
un arbre ou une colline ou n'importe, voilà. Il va quand même se passer des choses.
Ouais, ouais.
Le jeu n'est pas purement narrativiste dans le sens où que tu as posé ta question. Donc, c'est un élément parmi tant d'autres.
En sachant aussi que le bouquin propose quand même de procéder à une préparation de partie qui est quand même très relativement ample, c'est-à-dire qu'on on va fixer 4 ou 5 intrigues dans des lieux différents, chacune de ces intrigues ayant des niveaux d'évolution, ben, un petit peu comme dans le système Apocalypse où tu vas avoir tes fronts qui vont évoluer si tu fais rien. Là, c'est un petit peu le même principe. Et normalement, quand tu commences la partie, tu as déjà des pôles d'intrigue qui sont déjà tout prêts.
Exactement. Donc,
ok.
Pour poursuivre sur la façon de jouer, donc outre les cartes de patrouille qui permettent un peu de faire avancer l'histoire en général, pour chaque scène, en fait, les joueurs auront plus ou moins de cartes d'exaltation qui sont l'équivalent de points d'héroïsme, mais qui peuvent aussi amener des éléments supplémentaires parce que, par exemple, là j'en tire une au hasard, c'est une carte donc d'exaltation qui s'appelle « Tiens, ça me rappelle chez moi ». Et jouer cette carte quand vous avez quelques ennuis au sein d'une communauté, vous disparaissez dans les interstices, trouvez un refuge ou une manière de quitter l'endroit en emportant ce qu'il faudra pour survivre dans la fuite. Donc en gros, c'est une carte qui va permettre à un joueur de dire « Ah ben voilà, c'est mon point d'héroïsme, si on arrive à s'enfuir sans aucun problème malgré la foule qui est en train de nous poursuivre. » Et donc là, c'est... Donc ça, ce sont les cartes de points d'héroïsme, et il y a notre carte qui est la carte du fumble. Donc le fumble, là, c'est pas le dé qui va dire quand va arriver le fumble. C'est le joueur qui va avoir des cartes. Par exemple, tiens, ça fait quoi si on appuie sur ce bouton ? Jouez cette carte quand vous êtes face à des mécanismes ou des mélanges inconnus, et vous effectuez la mauvaise opération. Alors, oui, mais pourquoi lancer une carte fumble ? Ben, parce que c'est intéressant, ça crée de l'histoire, et aussi ça permet de piocher des cartes
d'exaltation.
Et l'un des éléments qui est assez intéressant pour créer une synesthésie de groupe, c'est que lorsqu'on va jouer une carte de persécution, on va piocher deux cartes d'exaltation et on va pouvoir, enfin l'une des deux, on va devoir la donner à l'un de nos camarades. Et comme ces cartes sont typées par rapport soit aux motivations des joueurs, soit à leur peuplade, soit à différentes...
peut-être leur vocation, leur métier.
Ouais, leur vocation, leur métier ou autre. On va pouvoir donner la bonne carte à la bonne personne pour qu'il puisse l'utiliser, sachant que si la carte, elle est typée au personnage, elle pourra utiliser le pouvoir puissant...
Elle donne un bonus ou un truc comme ça.
C'est le pouvoir puissant que j'avais décrit tout à l'heure, par exemple, de fuite aucun problème. C'est réservé à quelqu'un qui est citadin.
D'accord, et je vois celle-là, par exemple, il y a marqué soldat.
Soldat.
Il
voilà,
faut être soldat pour avoir
Il faut avoir des points en soldat pour pouvoir utiliser le plein pouvoir de la carte. Mais sinon, si on n'a pas si on n'est pas soldat, on peut quand même utiliser la carte comme un simple point d'héroïsme pour relancer un jet, pour éviter de crever, ce genre de choses. Oui.
Ces petits bonus sont d'ailleurs spécifiés sur chacune des cartes.
Exactement.
Il n'y a pas besoin de se référer à...
Il n'y a pas besoin de reparcourir le bouquin pour revérifier. Tout est sur les cartes. Comme tout est sur la fiche de personnage, ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment toutes les informations qui sont résumées sous chaque métier. Il y a le résumé de à quoi ça sert.
C'est vrai que de ce point de vue-là, c'est plutôt bien foutu.
C'est très didactique.
C'est très didactique
et c'est un vrai plaisir à utiliser. Moi, Oltré, bon, bah, j'y ai joué, j'ai vraiment adoré.
Et alors, toi, en partie, qu'est-ce que ça a donné au niveau, à la fois par rapport à ce que tu avais préparé et sur la partie improvisation ?
Alors, je n'avais rien préparé parce que j'ai utilisé le setting proposé dans le livre de base, donc qui est une île que les patrouilleurs doivent aborder et un peu reprendre leur place sur cette île, sauf qu'ils sont partis depuis tellement longtemps, enfin l'Empire a abandonné l'île depuis tellement longtemps qu'on ne sait pas du tout comment ça a évolué. Et bah, par exemple, typiquement, le démarrage classique, tel que décrit le Grumpf dans le livre de base, c'est bah, les patrouilleurs vont jusqu'au fortin de, enfin, qu'ils avaient sur leur vieille carte qui date de 300-400 ans. Normalement, on doit investir la place. Les miens, ils ont préféré rester sur le lieu de débarquement pour sécuriser l'hexagone, c'est-à-dire piocher 6 cartes de patrouille à cet endroit-là, mm-hmm. pour être certain que d'avoir une base arrière.
Oui.
Oui, du coup, côté préparatif, tout ce que j'avais lu, ça n'a pas servi sur la première session, mais j'avais tous les outils en main pour pouvoir justement réussir à faire une session complète sans aucun blanc.
Oui, d'accord. Ok. Oui.
Ouais, j'ai envie d'enchaîner justement. Là que tu parles, que les joueurs se sont définis un objectif et faire le petit lien en fait avec le mécanisme d'expérience. Si tu as envie de nous en parler.
Voilà. Au niveau du jeu, donc les joueurs sont invités en début de session à se définir un objectif.
Oui.
Encore une fois, bon, là on va reposer la même question. Et si les joueurs n'ont pas envie, le MJ il invente un objectif.
Du style.
Je parle pas de gens qui font de l'obstruction.
Au jeu. On peut ne pas avoir d'idée, hein, mais. On est plusieurs autour de la table, on peut discuter.
Faut juste pas jouer avec ceux-là, quoi.
Oui, je crois que c'est mentionné, parce qu'en fait, là, tu joues un patrouilleur, donc même si t'es pas le super héros, tu es un gentil, entre guillemets.
Ouais, c'est exactement ça.
Ça part de ce postulat, et c'est clairement précisé là aussi, quoi. En gros, tu veux faire de l'obstruction, viens pas.
Voilà. C'est un.
C'est un jeu collaboratif.
C'est un jeu de groupe.
C'est pas vampire où on se tire dans les pattes. Non. Tu pars du principe que les joueurs, ils bossent
tout
ensemble.
Le monde
ils peuvent avoir des dissensions, mais ils portent quand même la patrouille.
Oui. C'est-à-dire le groupe est important.
Le groupe est important.
Le voleur va pas voler sa part discretos, etc.
Exactement.
Ça va être mis.
Il peut le faire.
Il peut le faire.
Mais après. Ce sera juste un à côté, quoi. Il prend une part un peu plus grosse, ouais. Mais ce sera pas le problème de. Enfin, ce sera pas les intrigues principales qu'on mettra en avant. La dissension entre joueurs.
Énormément de choses qui justement ne vont pas dans ce sens-là. On pourra, par exemple, on va terminer sur les objectifs, mais on pourra parler des trésors et des ruines peut-être. Mmh. La génération aléatoire de ruines avec les cartes.
Sur les objectifs, une fois que les joueurs se sont définis un objectif en début de séance, c'est simple. En fait, pour pouvoir gagner un niveau, il faut résoudre l'objectif.
Donc dans le scénario de base, quand on te propose rejoindre le fortin, automatiquement,
voilà.
tu gagneras ton niveau que quand tu auras
rejoint le fortin.
Et si là, par exemple, dans sa partie, ils ont décidé finalement de sécuriser la base de départ, ça pourrait devenir l'objectif.
C'est devenu leur objectif. Ouais. Et il y a une proposition donc d'une série de questions que le MJ doit se poser une fois que les joueurs auront défini leur objectif. Et qui va servir en fait pour nourrir le scénario et faire en sorte que les joueurs ne se disent pas juste on va sécuriser le truc et puis voilà, c'est plié, c'est fini. Non, il y a une série de questions que le MJ doit se poser, dont notamment qu'est-ce qui peut faire que les joueurs vont abandonner leur objectif ? Qu'est-ce qui peut faire que qu'est-ce qui peut vouloir s'opposer à cet objectif ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'ils échouent ? Donc il y a toute une série de questions comme ça qui sont très intéressantes parce que. Qui vont permettre de pouvoir construire l'histoire. Tout simplement, moi, ils m'ont dit, ils veulent sécuriser la zone. Bon, j'avais défini que c'était un petit port impérial abandonné. Bon, qu'est-ce qui peut les embêter ? Quelqu'un d'autre qui a besoin de ce port. Donc, j'avais inventé très rapidement, en un quart d'heure à tout casser, une faction de pirates qui venait ici de temps en temps pour réparer le bateau, pour entreposer le butin et tout, donc qui verrait d'un mauvais œil que des gens viennent s'installer. Et tout de suite, on a une opposition, et donc vraiment une opposition à l'objectif, et donc une histoire qui se construit.
Ok, et en fait, à chaque fois que ce genre de choses apparaît, en fait, ça t'oblige quand même à prendre un petit temps pour pouvoir faire...
Voilà. En fait, soit tout de suite, on a une idée... si on est vraiment très rapide.
Ouais.
Mais sinon, il y a toutes les tables pour créer très rapidement en quelques dés. Et c'est ça qui est assez merveilleux, je trouve. C'est qu'on lance un dé, ou alors on parcourt la table, hein, simplement, et puis on lit pirate. Bon, bah, tiens, pirate, zone portuaire, bref, ça ira très bien. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces pirates? Ben, sur une faction, on va avoir un peu son destin, le destin de la faction, et on va écrire une petite chronique en 8 étapes pour dire qu'est-ce qui se passe si les joueurs n'interviennent pas. Donc, moi, j'ai par exemple, pour mes pirates, j'ai tiré, c'est une faction très importante, mais qui va s'autodétruire très vite. Donc, à partir de ça, tout de suite, je me suis dit, va y avoir une trahison entre une mutinerie... Et les joueurs vont aussi tomber un peu là-dedans. Donc tout ça, ça construit quelque chose en fait. Et tous les outils sont vraiment à disposition pour générer des éléments d'histoire à la volée. Okay. Et c'est vraiment à la volée. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, c'est quoi ? C'est le temps d'aller chercher la bouteille de coca dans le frigo ou de faire une pause pipi générale. Et paf quoi, il y a... Tout de suite.
Un gros pipi quand même. Parce que...
Non, mais quand il y a la queue pour aller aux toilettes.
Ah, d'accord, oui.
Il y a un lavabo.
Non,
enfin,
bref. Oh.
Non, mais en fait, c'est très facile de. Ça coupe pas la fluidité parce que même le MJ peut faire ça tranquillement dans son coin pendant que les joueurs ils discutent entre eux de leur objectif et de comment ils vont faire. Hein.
Moi, ça m'arrive plein de fois de profiter d'une pause plus que pipi pour décider de la suite de mon scénario.
Voilà.
Des fois, je fais bon, attendez, vous faites quoi, la horde de marche?
Ouais, mais oui, rien.
Tiens la torche.
Voilà, mais c'est
qui
ça.
Tient la torche.
C'est des petites astuces de MJ qu'on a. Et voilà. Moi, c'est vrai que je produis beaucoup à l'improvisation en rebondissant sur ce que proposent mes joueurs, même sur des jeux de rôle plus classiques comme Shadowrun ou autre. Et là, non seulement je peux le faire, mais en plus j'ai tous les outils pour le faire de façon encore plus fluide.
D'accord.
Voilà. Okay. Je pense que la petite checklist aussi au démarrage, ça va être pas mal justement pour faire la reconnexion entre le rajout des joueurs, l'impro sur le moment et ce qu'on a de global. Quoi. Avant de se dire, ah, tiens, est-ce que j'ai des pirates? Et au fait, est-ce que j'aurais pas une des factions que j'ai créées
qui pourrait servir?
Intéressée par le port.
Oui, voilà, tout à fait.
Par exemple. Donc je pense que ça permet pas mal au début d'aider à, bon, comme je dis, en tant que checklist, à pas oublier des choses qu'on a déjà établies en fait.
D'accord. Et donc pour toi ça a bien marché.
Voilà, pour moi ça a bien marché. Sinon,
d'accord.
Un autre truc qui marche assez bien, c'est la carte.
Oui.
Donc la carte, on l'a dit, c'est des hexagones. Là je parle de la... et en fait c'est l'univers. Donc ces hexagones, lors de sa préparation, s'il le souhaite, le MJ il a pu y placer des fortins, des communautés, des éléments géographiques, des éléments sociologiques. Tout ça va créer vraiment un monde, des monstres, des rumeurs, tout ça va créer un monde complet. Donc là, il y a un côté assez jeu de société en fait, parce que les joueurs, pour pouvoir se déplacer le long de ces hexagones, par exemple, ils veulent aller enquêter sur un monstre qui se trouverait dans un bois à quelques hexagones de leur fortin, il faut déjà qu'ils aillent jusqu'au bois, et donc là ils vont tirer une carte patrouille à chaque fois. Sauf qu'ils peuvent se dire aussi avant d'aller s'occuper d'une rumeur qu'on sait pas trop, faudrait peut-être déjà sécuriser un peu la zone, donc là ils vont plutôt explorer sur place pour tirer 6 cartes de patrouille par hexagone, parce qu'un hexagone qui est sécurisé, on tire plus de cartes qu'on le traverse.
Ouais.
Donc ça permet
de circuler beaucoup plus vite
parce que chaque carte patrouille tirée, bon, sur le tas il y a un tiers de rien à signaler où il se passe rien, mais sur le reste il peut arriver plein de bricoles,
péripéties,
les détours, les rencontres et les vestiges. En fait c'est trois types de choses qui peuvent faire que le patrouilleur va devoir s'intéresser à
un lieu particulier,
un endroit particulier ou un cas particulier.
Il y a aussi les ressources à gérer.
Voilà, et alors il y a tout un système qui rentre aussi un peu dans le côté jeu de société de la chose, de ressources, et ça joue beaucoup sur l'attrition. Ce jeu, à savoir que les personnages vont avoir un stock de ressources en début, ils vont consommer une ressource par jour. plus et par personnage évidemment, plus pour leur suivant, plus pour
les chevaux,
après un combat ça représente aussi un peu toutes les herbes médicinales qui sont utilisées, et tout ça va faire que va falloir gérer les ressources, et puis quand on trouve dans une ruine des ressources, genre des pièces d'or et autres, qui sont des ressources immobilisées, il va falloir les transformer en ressources utiles, donc aller voir une communauté pour aller acheter.
D'accord.
Voilà. Ouais. Donc cette utilisation de points de ressources plutôt que de définir vous avez trouvé 10 000 pièces d'or, et puis après d'aller chercher dans des tables, là si j'achète un cheval de guerre, ça fait tant de milliers de pièces d'or, et puis si je négocie, j'ai un rabais de 10%. Enfin, là, on compte en ressources.
Il y a moins de micromanagement.
Il y a moins de micromanagement, mais tu as quand même le management de
global,
global qui est là et qui joue aussi, parce que le patrouilleur, s'il a plus que qu'une ressource dans son sac à dos et qu'il est à deux hexagones de son fortin, il va peut-être essayer d'esquiver plutôt les rencontres pour rentrer tranquillement de partir un peu plus loin en exploration encore, quoi.
Ok.
Au pire, il s'arrête, il chasse. Hein. En fait, c'est ça aussi.
Non, mais chasser, ça implique de piocher une carte patrouille qui servira pas à explorer la zone. Ouais. Donc, potentiellement, de faire une rencontre supplémentaire qui peut être intéressante, mais qui peut être aussi très dangereuse.
Ouais. Et donc, consommatrice de ressources.
Donc, consommatrice de ressources.
Non, mais c'est intéressant en tout cas. Voilà. C'est intéressant.
Alors, tout à l'heure, si je disais oui, ça a bien marché pour toi, parce qu'en fait, moi j'ai lu le jeu et je l'ai testé et ça donnait une partie pas terrible du tout.
Faut voir les joueurs aussi.
Non, des joueurs avec des joueurs très imaginatifs, très narrativistes, tout ça. Et ce qui m'a beaucoup gêné, c'est le côté super mécanique en fait du jeu, qui incite en tout cas à faire des jets sur plein de tables. Comme tu le disais, ça t'oblige à interrompre la partie pour préparer des petits trucs, alors que moi j'avais passé un après-midi complet à générer mon monde avec ses intrigues et tout ça, et en fait rien de tout ce que j'avais préparé n'a été utilisé, vu que à chaque hexagone qu'ils sont traversés, ils ont tiré des cartes qui les ont incités à aller fouiller dans des ruines, etc. Et en fait, à chaque fois que la sauce commençait à prendre et qu'il commençait à y avoir un début d'histoire, de trucs, je me trouvais à être obligé de chercher dans le bouquin comment gérer telle ou telle situation, où est-ce que je vais trouver l'information pour gérer les ruines, les machins. Ah oui, c'est dans le bouquin, il faut que j'y retourne et tout. Et
est-ce que tu as bien lu ton écran ? Il y a les pages sur toutes les tables.
L'écran comprend énormément de choses.
Voilà. Oui. Sur l'écran, il y a toutes les tables
oui, mais
quasiment.
En fait, pour moi, c'est trop. Il y a trop de trucs.
En fait, t'as surpréparé ta partie.
Je l'ai. C'est dit dans le bouquin. Il est dit. Vous pouvez prendre quelques heures, machin, pour préparer avec un déroulé de préparation qui est bien foutu. Hein.
Je l'ai fait aussi.
Voilà, et j'ai passé un bon moment, à la fois un moment bon et un bon moment, parce que c'est quand même cool de remplir tes petits hexagones en disant ah oui, à tel endroit il y aura tel truc et tout. Mais en fait, tout ça, c'est complètement passé à la trappe et je me suis retrouvé à gérer à la volée des situations que pour le coup j'avais pas du tout prévu,
que de l'improvisation en fait.
Ouais, je me suis
est-ce que ça t'a pas obligé à jouer par le jeu en fait, c'est-à-dire que t'étais parti finalement en brisant un petit peu l'intention initiale
justement
du jeu. C'est vraiment, tu poses un décor dans lequel il y a énormément de liberté, de marge de manœuvre pour que les joueurs puissent caser leur truc à eux. mais que tu vas quand même raccrocher, quoi.
Et, non, et c'est vraiment passé à la trappe ou c'est...
Ah oui, mais oui, parce que on a joué 4 heures, je crois.
Vous avez fait combien d'hexagones en fait?
Et ils ont fait 3-4 hexagones.
Est-ce qu'ils ont atteint un hexagone où tu avais prévu quelque chose?
Non.
Ah, voilà, c'est ça le problème.
Ouais, moi, alors, faut vraiment viser petit, ou je pense.
À ce niveau-là, il y a quelque chose que.
Mais j'avais fait un truc. J'avais fait une zone d'une dizaine ou d'une douzaine d'hexagones.
Oui. Mais est-ce que les joueurs, ils avaient une carte complètement vierge ou tu leur as fourni une carte avec des éléments?
Je leur avais fourni ma carte que d'accord. J'avais dessinée avec mes petites montagnes, mes petites collines.
Tu leur as donné la carte du MJ et t'as pris celle des joueurs où il n'y avait rien. C'était l'inverse qu'il fallait faire.
Et voilà, donc je leur ai fourni ça. De toute façon, sur les hexagones, tu ne peux pas mettre grand-chose. Donc la plupart des éléments, tu les as écrits sur des papiers à côté.
Puis
et... En plus, j'ai mis un petit moment à comprendre le système de règles et du coup, je me dis que ce jeu n'est pas forcément fait pour moi, quoi. Je préfère des trucs beaucoup plus simples à la Wasbur, par exemple, parce que tout le système de règles tient dans une table qui est écrite sur la feuille de perso. Et ça, pour moi, c'est un peu l'idéal. Et là, en fait, j'ai été pris sous une avalanche de, de tables et de machins à tirer et je ne m'en suis pas vraiment tiré, en fait.
Ça me rappelle une vieille anecdote qui courait sur Donjons et Dragons il y a je sais pas combien d'années.
C'est-à-dire
l'anecdote, c'était, je me demande si elle est vraie, c'était, ça traînait à Perpignan.
Oh, mais c'est pas grave.
Et, c'était que c'était un mec qui a beaucoup joué à Donjons et Dragons et un jour il prépare son, il est en tant que joueur dans son club et à un moment donné il va avoir enfin la tâche d'être MJ pour son groupe, quoi, et tout. Et donc il passe genre une semaine à préparer un donjon sur une feuille immense avec la moindre salle, le moindre monstre, le moindre piège, etc. Et le jour de la partie, les joueurs étaient assez haut en niveau, enfin, les personnages étaient assez haut en niveau, et ils arrivent devant le donjon, et il y a un des personnages qui jouait un mage, il lance le sort de détection du trésor qui existait à l'époque, qui lui a indiqué où se trouvait le trésor dans le donjon, et il a lancé téléportation, il est allé chercher, il a relancé téléportation, il est sorti du donjon, ils sont barrés.
C'est mignon,
c'est bien ça, c'est la base.
C'est éducatif, ouais.
Donc voilà, pour moi ça n'a pas marché du tout et j'ai été super déçu.
Mais est-ce que t'as fait le débriefing de ça? Est-ce que tu penses que ça n'a pas marché à cause du jeu, à cause de toi ou à cause des joueurs ou à cause de quoi?
Alors j'ai débriefé avec les joueurs et je pense que ça vient de la corrélation entre moi et le système de jeu.
Ouais.
D'accord.
Moi je suis assez axé sur tout ce qui est un peu sandbox et compagnie et je suis moins allergique aux règles a priori que David, et j'ai quand même une petite appréhension. En la lecture du livre, il y a quand même plein de petites tables, de petites choses vraiment fourrées un peu partout. J'ai pas encore essayé autour d'une table. Je suis motivé vraiment par le principe. J'ai aussi peur un peu de faire du travail de création de mariage que j'arriverai jamais à exploiter parce que je ferai jamais 50 scénarios avec des gens. Il y a énormément de choses qui sont très bien faites pour ça. On n'a pas parlé encore, mais le carnet de patrouille.
Oui.
À savoir, tu veux en parler, Blake?
Oui, bah on peut en parler. Donc l'idée c'est que les joueurs doivent travailler. Bon, ça vous l'avez vu en début de séance, mais en fin de séance aussi. À savoir que en fait, on va créer un carnet de patrouille qui va avoir plusieurs parties. Donc une première partie, c'est les listes des PNJ rencontrés. L'idée, c'est que c'est vraiment les joueurs qui disent « on a rencontré tel PNJ sur tel hexagone. La rencontre, c'est en résumé en 3-4 lignes. En gros, le PNJ, quelle est la relation à la patrouille ?»
Un PNJ hostile, voilà, dans l'hexagone 35.
Et puis on a fui, donc attention si on y revient.
Voilà. Oui, en fait, ce jeu est fait pour faire des campagnes au long cours. En fait,
voilà, c'est ça. C'est
pas nécessairement avec les mêmes joueurs. C'est
exact,
ça qui est intéressant.
Oui, on va continuer. Justement, c'est ça. Tu disais sur une seule séance, ça n'a pas marché. C'est pas dit que si tu fais pas d'autres séances, ça. Voilà. Pour du one shot, je pense pas qu'il faille trop, en tout cas pour le MJ, se préparer. Le mieux, c'est d'utiliser les outils de création à la volée. Donc si je repars sur le carnet de patrouille, donc on a les PNJ, on a les hexagones visités et on a aussi qui était là dans la patrouille. Donc ces trois éléments en fait vont permettre après la semaine d'après, il y a Robert qui est pas là pour venir jouer, mais il y a Alfred et Léon qui viennent en plus.
C'est pas des bons, fais gaffe.
On crée une nouvelle patrouille.
C'est que des gens avec... qui ont 80 ans, parce que vu les prénoms.
On crée une nouvelle Léo, patrouille Mathéo, avec ces joueurs-là.
Hey, c'est Old School Revival. avec ce, tu peux pas tu peux aller à l'hospice normalement.
Laissez-le finir.
Donc on a créé une nouvelle patrouille. Enfin, c'est la même patrouille, mais c'est d'autres personnages de cette patrouille. Et puis, bah, ils vont pouvoir consulter ce qu'ont fait leurs collègues les jours précédents et se dire ah ben tiens, eux, ils ont visité les hexagones au sud, nous, on va peut-être plutôt partir au nord. Ou alors, tiens, au sud, les collègues, ils ont aperçu une ruine, mais ils ne sont pas trop approchés. On va aller voir de plus près ce qui s'y passe. Donc, tout ça, ça peut nous donner des idées d'objectifs pour les séances suivantes. Parce que là, j'ai donné un exemple avec d'autres joueurs, mais simplement, vous faites une partie par an ou une partie par mois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Waouh, je sais plus. Ah ben, on ouvre le carnet de patrouille. Et tout de suite...
Les cartes permettent aussi de suivre, justement. Ah bah tiens, on avait quasiment fini cet hexagone. Sous-entendu, on avait tiré 5 cartes sur les 6. Si on y revenait, histoire de se le torcher, quoi.
Voilà. Ouais. Et tout ça, ça peut permettre de en début de séance, de donner des idées aux joueurs pour se créer les objectifs à remplir.
Alors, en fait, ça peut même être carrément cool en club, là où tu as 4 ou 5 tables qui peuvent tourner, se croiser, explorer des hexagones différents, se laisser des informations.
En fait, je pense que, par exemple, comme à Ars Magica, où en fait, tu as vraiment un jeu de troupes qui se met en place. C'est pour moi ça se rapproche beaucoup en fait.
Ouais, et là théoriquement si c'est bien fait, peut même y avoir plusieurs MJ, pas seulement un MJ avec plusieurs groupes de joueurs, mais même plusieurs MJ qui vont faire évoluer leurs personnages dans sur le même territoire, qui vont compéter tous ensemble un même classeur avec les fiches de patrouille. Ça peut être vraiment intéressant.
Et puis le soir où vous avez tous les personnages qui ont mis leur max en soldats, guerriers et compagnie, tiens, ce soir, on va aller s'occuper du gros dragon qui est là-bas. Et le soir où c'est plus des diplomates et autres qui sont autour de la table, ben, on va aller visiter cette nouvelle communauté dont on a entendu parler pour essayer de...
D'établir des liens commerciaux.
Des relations avec eux. Et du coup, ça permet d'adapter vraiment ce qu'on va proposer en jeu à ce que les joueurs, ils attendent.
Ok, très bien.
Impressionnant.
Tu as d'autres choses à...
Oh, je peux le relancer sur plein de pistes. Hein. Oh, parce que je pense qu'on va faire toute cette partie du podcast sur Ultra.
Oui. Là, on a encore 4 ou 5 minutes pour cette partie.
On peut parler de la création des ruines avec les cartes, vite fait, et des points de trésor.
Alors, en fait,
si je peux glisser un truc tout con, c'est un truc qui m'a fait plaisir à voir dans le bouquin. Et ça, c'est... Il y a une table de prénoms à disposition pour selon les cultures.
En fonction des cultures.
Et ça, moi, j'en imprime régulièrement en allant sur l'onomasticon de je sais pas comment il s'appelle sur Internet, il y en a un. Parce que sinon, tous mes PNJ s'appellent Bob et Marcel.
Ah bah, vous avez bien vu ce que j'ai nommé comme ça, sans tirer de dés sur une table.
T'as pas du tout parlé du système de jeu.
Le système de résolution avec 3D de 8.
Voilà. Le système utilise 3D. 3D 8. Alors, c'est que du D 8. Donc, il y a l'un des dés qui s'appelle le dé de prouesse, un autre qui s'appelle le dé de maîtrise, et le dernier qui s'appelle le dé d'exaltation. Donc, le dé de prouesse, c'est le dé de maîtrise en premier plutôt. Voilà, merci. C'est celui qui va être complété par le métier, par les bonus et autres, et qui va dire comment le coup est bien maîtrisé en fait. Et plus le score est haut, plus le PJ va être efficace.
Généralement, voilà, ce dé permet de mesurer l'effet de la réussite, si on arrive à réussir son jet.
Si, par exemple, sur un jet de combat, c'est le dé de prouesse qui va définir de maîtrise qui va définir le nombre de dégâts infligés. Le dé de prouesse, lui, par contre, plus il est faible, plus il est intéressant. À savoir que, en gros, c'est... j'ai réussi à faire l'action, donc à dépasser le seuil de difficulté prévu par le MJ, même si mon dé de prouesse est à 1. Donc c'est que j'ai réussi une prouesse exceptionnelle. Et là, l'un des trucs encore où le joueur doit travailler, mais c'est pour son bien, c'est que le joueur va avoir la main pour expliquer c'est quoi sa prouesse. Donc tout ça, ça va permettre de créer de l'histoire en plus, en fait.
Et de leur donner un petit peu de pouvoir narratif, donc précisément aux joueurs.
Exactement.
Qui peut détailler l'effet de cette réussite plus ou moins critique.
Et le dernier dé qui est très intéressant, qui est le dé.
Ah, David est tombé dans le seau de ponche.
Je tiens à signaler qu'il y en a certains qui sont occupés à se fouiller consciemment les gueules.
Il nous reste combien de litres à finir de manger?
Mais comment ça? Non.
Il reste moins d'un litre.
On nous a dit que c'était du jus de fruits.
Moins d'un litre?
Alors il reste un litre de podcast.
On pourra jamais tenir une heure supplémentaire.
Et donc, outre le dé de maîtrise et le dé de prouesse, il y a le dé d'exaltation. Et le dé d'exaltation, le but, c'est que si le joueur estime que son dé d'exaltation, que le résultat du dé d'exaltation est plus intéressant, soit que son dé de maîtrise, parce que c'est un gros chiffre qui a été ressorti, soit que son dé de prouesse, parce que c'est un petit chiffre, mais qui permet quand même de dépasser la difficulté, il va pouvoir remplacer, dire j'utilise le dé d'exaltation plutôt que d'utiliser...
L'un ou l'autre des deux dés.
Voilà, l'un ou l'autre des deux dés, ce qui permet de maîtriser un peu plus le hasard. Et après, il y a aussi, par exemple, des états. C'est-à-dire que si le personnage, par exemple, est contraint, donc il est blessé ou autre, par exemple, il n'a pas le droit de jeter de dés d'exaltation. Donc il a moins de maîtrise sur son jet.
Il jette deux dés et garde les deux. Et en cas normal où il est en pleine possession de ses moyens, il a trois dés, dont ce fameux dé qui permet
d'ajuster,
de substituer à l'un des autres. Et donc voilà. Il ne garde que deux dés. D'où l'intérêt de la petite astuce avec le jet de prouesse, de se dire faut que mon jet de prouesse soit le plus bas possible, tout en arrivant à dépasser
suffisamment pour dépasser le seuil de difficulté.
Voilà. Quand tu dis il faut que c'est le hasard, tu lances tes dés, t'attends.
Ouais, non, mais t'espères dans la mesure où tu peux à un moment donné changer ce dé. Ton dé d'exaltation va te permettre de pouvoir le substituer soit
d'accord,
au dé de maîtrise, soit au dé de prouesse. Si je tire un dé de prouesse à 5, je vais avoir une prouesse seulement si j'ai 4 ou moins sur mon dé de...
Exactement.
Donc je vais pouvoir me dire, je tire 4 sur mon dé d'exaltation, car les dés sont... on note leur couleur.
Ouais.
Hein, donc ils sont bien clairement identifiés autour de la table. Donc si j'ai tiré un 5 sur mon dé de prouesse, un 4 sur mon dé d'exaltation, j'ai carrément intérêt à essayer de le remplacer, si je pense que je passe la difficulté.
Si le 4 permet ajouter...
Je sais pas si tu te rends compte que les joueurs qui lancent des dés de 100, ils ont déjà du mal à décider des centaines et des unités, mais avec 3 dés, c'est pas compliqué.
Ah, mais tu fais comme avec nominer Satanis. Hein,
c'est pas un dé du 180.
Un bleu, un blanc, un rouge.
Sur la fiche
bleu, blanc, rouge, et voilà.
Sur la fiche de perso, il y a... Sur la fiche de perso, il est écrit couleur du dé d'exaltation, et il y a une petite ligne en dessous pour l'écrire.
On a dit qu'elle était bien faite cette
couleur du dé de maîtrise et couleur du dé de prouesse. Donc c'est vraiment.
Ok.
Il y a, enfin c'est vraiment tout aidé pour bien que ce soit fluide en cours de jeu. En fait.
D'accord, c'est pas casse-couille de lancer 3 dés et de se rappeler que celui-là c'est celui-là et machin.
Okay. Bah, si c'est t'as pas envie de te prendre la tête, tu prends les deux plus gros et t'es content parce que tu bats le seuil de réussite. Si t'as passé un peu un niveau supérieur, tu te dis peut-être que si je prenais ce dé-là, c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais...
Donc il y a un aspect tactique à chaque lancer de dé en fait, qui est vraiment intéressant pour les joueurs, quoi, qui kiffent en termes de gameplay.
Je pense que c'est rapide, c'est un petit plus. C'est sympa, t'es content d'avoir ce troisième dé d'exaltation, ça te fait chier si t'es contraint et que tu l'as pas, à mon avis.
Ah oui, ça c'est...
D'accord, donc c'est intéressant, ce mécanisme, c'est
mécanique,
il est intéressant.
Ça permet de maîtriser un peu plus le hasard, le hasard du dé. Et avec l'outil comme quoi, si tu fais une très forte... si tu fais, un très faible jet sur ton jet de prouesse, tu vas pouvoir en plus rajouter des éléments de fiction par rapport à ta réussite. Dans la table d'exemple, dans la table, il donne des exemples. Donc, par exemple, si on a réussite sur un dé de prouesse majeur, on va pouvoir ajouter plus un dé 8 au résultat du dé de maîtrise. Donc, tout de suite, le dé de maîtrise étant celui qui permet de voir vraiment l'efficacité de l'action.
Puis aussi, il faut ajouter que les dés sont explosifs.
Les dés sont explosifs. Si on fait 8, on les relance.
Ouais.
Tant qu'on fait 8, on les relance. Bon, ça, c'est le petit côté marrant. Enfin, moi j'aime bien. Hein, j'ai des très bons souvenirs de Warhammer, de tuer un démon avec une dague simplement en lançant des 6.
On n'a pas développé non plus là-dessus, mais au dé de maîtrise, on rajoute généralement une des vocations. Hein, les trois vocations étant soldat, érudit et
voyageur.
Voilà, on retrouve à.
Et les métiers. On va rajouter aussi les métiers et les différents bonus. Hein, si on a un objet magique qui va aider sur un truc ou
un animal.
Ou un animal ou une potion magique, n'importe quoi.
Des suivants. Les nobles, par exemple, parce que ceux qui ont le métier noble vont avoir des suivants qui vont porter des choses, qui vont être experts, mais qui vont aussi consommer des ressources. Donc là, on retrouve un peu le coup de gestion tactique.
Voilà. Ok. Très bien. Bon, bah, là, je pense qu'on a fait un tour assez complet.
Oui.
On peut continuer encore. Hein, mais...
Et, et je vous propose qu'on arrête là cette seconde partie et on revient tout de suite.
Parce qu'on n'a plus de punch.
Voilà.